Bonjour Daniel Haber.
Bonjour Asley, bonjour chers auditeurs.
Ravi de vous retrouver Daniel dans le cadre de nos conversations et aujourd'hui, eh bien, nouvelle conversation avec vous. On va parler de cette tempête médiatique au sujet des propos du président français Emmanuel Macron lorsqu'il est rentré de son voyage à Pékin et donc en revenant de Chine. Emmanuel Macron s'est exprimé sur Taïwan et ça a déclenché une tempête, donc on le disait, médiatique, ce qui nécessite, hein, cher Daniel, certaines explications, ne croyez-vous pas?
Bien sûr, alors le mot médiatique est important parce que les commentateurs, les commentaires très négatifs, tout le monde lui est tombé dessus, sont venus des experts, des géopoliticiens, des journalistes, sont pas venus de ses collègues dirigeants. Ni les Américains, ni les Japonais, ni les collègues européens ont se sont exprimés. Ils pouvaient être ou pas d'accord avec Macron, mais ils ont pensé que ce qu'il disait méritait pas de créer une crise diplomatique. Donc c'est une tempête purement médiatique. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit deux choses. La première, où les commentateurs ont fait un contresens. Il a dit en gros, c'est qu'au moment où il a décollé, les Chinois ont commencé tout de suite après à faire des manœuvres de très grande importance autour de Taïwan avec des bateaux, des avions, etc. Des grandes manœuvres. Au fond, Macron, qui savait tout ça, a dit, ne soyons pas suivistes des Américains dans le rythme. Dans le rythme qu'ils imposent à la question taïwanaise, et ne sont plus suivistes non plus de la réaction chinoise. Donc, il faisait uniquement allusion à des événements qui sont des gesticulations autour de Taïwan et qui ont lieu au fond chaque année et qui partent toujours d'une provocation américaine. Tout ça, ce sont des agitations purement politiciennes intérieures. Alors, qu'est-ce que dit Macron? Il dit arrêtons avec ces jeux-là parce que c'est des jeux dangereux. Un jour, il peut y avoir un accident, une escalade, etc. Tout ça sert à rien. Et donc, il avait raison. Et d'ailleurs, ses collègues, tout le monde pensait avec raison. Et tout le monde lui est tombé dessus parce qu'en fait, ils ont surtout ensuite pris appui sur la deuxième partie de la déclaration de Macron qui dit au fond s'il devait y avoir un jour une guerre à Taïwan, est-ce que ça serait vraiment notre guerre à nous Européens? Vous savez, avant la Deuxième Guerre mondiale, une grande discussion dans les milieux politiques en Europe, en France, en Angleterre, c'est si jamais l'Allemagne attaque la Pologne en 39, est-ce qu'on doit intervenir? Et ça s'appelait mourir pour Danzig. Et là, c'est la même question. Est-ce que nous, Européens, allons mourir pour Taïwan? C'est une vraie question, ça. Une vraie question, d'autant que même les Américains, par rapport à Taïwan, ont une position qui a évolué avec le temps. Mais ce qu'il faut dire surtout pour calmer la tempête, c'est qu'à aucun moment Macron n'a ce qu'on appelle mis en cause le statu quo. C'est un statu quo qui existe depuis 70 ans. En gros, tout le monde est d'accord dans le monde pour dire il n'y a qu'une seule Chine. Les seuls qui ont une opinion différente, c'est les Taïwanais qui disent non, non, nous sommes d'accord, il n'y a qu'une seule Chine, mais c'est la souveraineté de Taïwan sur la Chine. Bon, tout le monde sourit en entendant ça, mais au fond, tout le monde est d'accord, y compris les Taïwanais, pour dire il y a une seule Chine. Ça veut dire comme conséquence, et ça c'est le statu quo, l'accord qui est fait, qui a été signé par des. Pas par des traités, mais par des mémorandums ou qui se sont échangés entre Américains, Chinois et autres, y compris à l'ONU, c'est en gros, Taïwan ne doit jamais déclarer son indépendance. Elle est autonome, elle a son système séparé de la Chine, mais elle ne peut pas déclarer son indépendance puisqu'il n'y a qu'une seule Chine. Et en contrepartie, la Chine dit, nous ne reprendrons jamais Taïwan par la force. Et je rappelle qu'en novembre 2022, Xi Jinping et Biden se sont vus longuement à Bali. Et ils ont dit, surtout, on ne fait pas de guerre sur Taïwan, vous pouvez dormir tranquille, et il n'y en aura pas. Et il n'y en aura pas.
Oui, voilà. Est-ce que les Européens vont mourir pour Taïwan? Probablement pas. Et justement, Daniel, à partir de cette affaire taïwanaise, suite à la visite d'Emmanuel Macron en Chine et des propos qu'il a pu tenir, on se demande alors quelle place tient l'Europe dans l'actuel chaos mondial?
Et oui, non, mais ça, c'est la vraie question, et c'est pour ça que Macron s'est exprimé. D'abord, il a tout ce qu'il a fait, c'est sciemment. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit, collègues européens, il est temps que l'Europe soit cette troisième puissance géopolitique entre les Américains et entre les Chinois. Il faut que nous existions en tant que puissance géopolitique. Il faut que nous ayons notre Autonomie stratégique. Voilà, ça, le grand mot est lâché, on parle, etc. C'est quoi l'autonomie stratégique? C'est de dire que nous, Européens, oui, nous sommes alliés des Américains, la preuve dans l'OTAN, mais nous avons nos propres intérêts européens vitaux qui ne sont pas les mêmes que les Américains. On ne vit pas au même rythme que les Américains, on n'a pas les mêmes intérêts, on ne fait pas la même chose, et donc nous avons cette autonomie stratégique. Alors sur l'Europe, on n'en a pas besoin parce qu'on est d'accord pour aider l'Ukraine, mais sur d'autres sujets, par exemple l'accord sur le nucléaire iranien, quand Trump s'est retiré de cet accord en 2017, les Européens sont restés. Donc ils ont fait preuve d'autonomie stratégique. Et avec la Chine, Macron n'était pas le seul à rendre visite à la Chine. Les Allemands, les Espagnols sont venus, et les dirigeants européens sont venus, bientôt les Italiens. Donc quand on va en Chine et qu'on va avec comme ils sont allés tous, avec des industriels dans leurs avions, c'est pour dire que nous, on est partant pour rester en Chine, même si les Américains parlent de se retirer de la Chine, nous, on veut rester. Donc, on voit que dans beaucoup de domaines, les Européens essayent de faire preuve d'autonomie stratégique. Le seul endroit où, finalement, les Européens acceptent d'être un petit peu vassalisés, c'est dans le cadre de l'OTAN. Et parce que là, évidemment, seuls les Américains peuvent garantir la sécurité de tous les Européens. Et le vrai problème, c'est qu'au fond, la plupart des Européens se disent, si c'est pas les Américains qui nous garantissent avec leur parapluie nucléaire, qui ça serait? Ça serait la France. Mais la France, avec sa bombe atomique, est-ce qu'elle irait mourir pour nous? Et on revient à la question, mourir pour Dantzig.
Mais alors, est-ce que cette volonté d'autonomie stratégique de l'Europe, est-ce qu'elle a une chance de s'imposer? Est-ce que l'Europe peut y arriver?
Alors ça, c'est la question qui est posée à l'Europe depuis le début de sa création. Vous vous souvenez que dans les années 50, on avait essayé de créer l'Europe de la défense. Ça n'avait pas marché parce que c'était trop tôt. Donc aujourd'hui, la question, c'est pour imposer une puissance géopolitique, il faut avoir une unité économique. Ça, on l'a. On l'a. Mais il faut aussi une unité de vue sur la politique étrangère. Il faut qu'on soit tous d'accord pour analyser le monde de la même façon. Et si on y arrive, alors il faut en plus une défense commune pour faire valoir nos droits. Alors évidemment, face à ça, on est dans un processus qui est engagé depuis très longtemps et qui se heurte à de nombreux obstacles. Alors si vous voulez, si on commence par la vision pessimiste, on va dire que bon, on va pas y arriver, quoi, parce que on voit bien que un grand nombre de pays européens n'ont pas confiance dans cette évolution géopolitique. C'est surtout les pays de l'ancienne Europe de l'Est. Pologne, etc., qui ont en mémoire les années sombres qu'ils ont vécues sur la domination soviétique, et puis qui voient la guerre en Ukraine et qui sont encore plus renforcés dans leur idée que leur salut, c'est l'Amérique. Et le deuxième obstacle, c'est que dans cet ordre mondial, etc., est-ce que vraiment l'Europe est suffisamment puissante? Or, on sait que depuis les années 70, l'Europe s'est désarmée. En fait, l'Europe, quand on essaie de la définir, c'est une zone de paix, c'est une zone de prospérité et de paix unique au monde. Tous les pays ailleurs renforcent leur défense, dépensent beaucoup d'argent. Depuis 60 ans, les Européens ont décidé de diminuer leurs investissements. Donc, ils se sont désarmés. Le réarmement de l'Europe, il vient seulement de commencer à l'occasion de la guerre en Ukraine. Donc, la plupart des pays ont doublé leurs investissements militaires, sont passés de 1% du PIB à 2%. Donc, on a des plans, de gigantesques plans pour se réarmer, mais ça va prendre du temps. Et donc, ce temps-là, est-ce qu'on l'a? Et au fond, c'est le problème, c'est que si on avait 10 ans devant nous, on aurait le temps de se réarmer et de devenir une vraie puissance. Mais on n'a pas ces 10 ans-là parce que là, on voit bien que les dangers s'accélèrent. Donc, qu'est-ce qui reste? Un brin d'optimisme en disant que on a réussi beaucoup de choses en Europe, on a réussi à gérer la crise de 2008-2009, on a sauvé la Grèce, on a sauvé l'euro, on a réussi à bien passer l'épreuve du Covid avec des achats en commun de vaccins, on a beaucoup vacciné, donc ça a été un grand succès. Sur l'Ukraine, on s'est réunis très très vite entre Européens, puis on a rejoint l'OTAN, etc. Donc, si vous voulez, on a beaucoup de preuves que l'Europe est capable de se réunir face aux crises. Et c'est pour ça que, au fond, la plupart des pays se posent cette question. L'Europe peut-elle exister entre puissances géopolitiques? Donc, c'est un thème qu'on retrouvera certainement dans nos conversations futures.
Évidemment, Daniel, merci beaucoup, comme d'habitude, pour vos précieux éclairages et, comme chaque fois, excellente semaine à vous et à la semaine prochaine.
À bientôt.